Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
Bonjour, Gérard Levacher est un vieux routier de la littérature. À 85 ans, il aligne plus d'une vingtaine de bouquins au compteur. Nous allons avec lui effectuer un petit tour d'horizon, parce qu'en 25 minutes c'est un peu court, de ses productions consacrées pour la plupart au Plantagenet et plus particulièrement au Rennes. Bonjour Gérard Levacher.
Bonjour.
Alors, je crois que les présentations sont à peu près faites brièvement, mais elles sont faites. Alors, comment vous est venue cette passion pour les Rennes et les Plantagenets ?
Oh, tout à fait par hasard, parce que arrivé à la retraite, j'ai écrit un livre sur la région du Nord-Sarthe, qui m'avait été demandé à l'époque par M. Cléache, qui était sénateur. Et donc, j'ai connu comme ça Henri II Plantagenet. Et de là, je suis parti... tout à fait par hasard. Et de là, j'ai voulu écrire l'histoire de la reine Bérengère, parce qu'il y avait très peu de choses sur elle. Et je suis parti à recherche de documents à travers toute l'Europe. J'ai commencé par Paris, ensuite je suis allé, en Navarre,
où elle est née, bien sûr. C'était incontournable.
Et surtout, et à Burgos, là où elle a passé toute une partie de sa jeunesse. Saint-Jacques de Compostelle, on est parti en Sicile, on est parti un peu partout. Et donc j'ai réussi à récupérer des documents qui étaient complètement disparus, oubliés
surtout.
Voilà. Et donc j'ai écrit ce livre qui en est à je ne sais combien de milliers d'exemplaires actuellement, La Reine oubliée. Voilà. Mais j'ai commencé à écrire à l'âge de 17 ans.
Oh yeah. Hein? Ah oui, ouais, attention.
J'ai écrit mon premier livre... si j'avais su, sur l'exode rural, j'avais à peu près 17-18 ans. Hein. Et j'ai fini mon deuxième pendant mon service militaire. Hein. Et après, grand blanc, parce que bien sûr, la famille, le travail, les études, bref.
Et ouais,
donc j'ai recommencé à la retraite.
Alors, donc voilà, c'est souvent qu'on fait ça. Hein. Beaucoup de gens qui ont envie d'écrire et qui ont l'habitude d'écrire, on en profite à ce moment-là. Et justement, avant de tomber dans la marmite royale, si j'ose dire, vous vous êtes penché sur les légendes. Et dans deux volumes qui sont intitulés « Histoire étonnante et merveilleuse », ça c'était en 2000, et vous récidivez d'ailleurs en 2013 avec un livre qui s'appelle « Parence ». La question elle est simple. Où êtes-vous allé chercher toutes ces histoires, toutes ces légendes?
Oui, alors donc, c'est là que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Histoire et légende du pays de Parence et histoire des légendes du pays des Trois-Rivières, c'est ce double volume qui m'a été commandé par M. Cléache. Donc, j'ai sillonné...
Ah, c'est ceux-là.
Voilà, c'est ceux-là.
Je ne le savais pas.
Qui ont été donc reliés dans une magnifique jaquette et qui a été tirée à l'époque à 4000 exemplaires et achetée par toutes les communes de la région des Parences. C'est-à-dire que, en gros, le canton de Montfort, plus un peu jusqu'à Bouloir, enfin bref, tous ces pays-là. Et j'ai été pioché à droite et à gauche chez les gens pour récupérer des documents et connaître des légendes qui étaient complètement oubliées.
Ouais, alors, du coup, là, c'est un collector, ça
Ah oui, parce que c'est des choses qui allaient disparaître.
Hein. Ah oui. Et puis les livres, c'est un collector, parce qu'un tirage limité comme ça...
De toute façon, il n'existe plus.
Il n'existe plus.
Il a été vraiment commandé.
Spécialement.
Spécialement pour ça, je fais ça bénévolement.
C'est intéressant, ça.
Pour le plaisir. Il y avait des aquarelles qui ont été faites pour le livre et qui ont fait l'objet d'une vente aux enchères. Donc, c'était très agréable.
C'est sympa, ça, ouais. Ouais.
Vivre au cœur des prés et des sillons, voilà qui a du sens. Surtout quand on a pour récompense fille et compagnon. Notre Père.
nouveau à la monarchie. Votre premier contact avec la vie monarchique commence avec la biographie de la reine oubliée, oui. Bérengère de Navarre. C'est le titre, hein, la reine oubliée, Bérengère de Navarre. Mmh. Alors là, vous venez de déjà de répondre un peu à la question. Vous avez fait quand même un tour d'Europe pour en arriver là. À ma connaissance, c'est le seul livre, la seule biographie qui a été écrite sur la reine Bérengère.
Voilà. Voilà, parce que moi je me suis rendu compte que cette femme-là, on connaissait bien sûr son mari, Richard Cœur de Lion, on connaissait sa belle-mère, Aliénor d'Aquitaine, éventuellement son beau-père qu'elle n'a jamais connu, mais Henri II, et puis, mais elle, rien du tout.
Rien du tout.
Rien du tout, alors a fallu chercher pourquoi, pourquoi cet oubli de l'histoire, parce que à part le Mans et autour du Mans, personne ne connaît la reine Bérengère.
C'est ça qui est étonnant, ouais. Et en fait, c'est peut-être aussi parce que finalement, ils ont vécu assez peu ensemble.
Bah, ils sont, oui, ils n'ont pas eu d'enfants, mais pourquoi ils n'ont pas eu d'enfants? À peine le soir du mariage, il est parti chercher ailleurs ce qu'ils sans doute ne pouvaient pas avoir. Bon, je pense quand même qu'ils ont dû consommer un petit peu avant le mariage, parce que je rappelle que le mariage était prévu en Sicile, et malheureusement, quand ils sont arrivés, on était en carême. Et à cette époque-là, on ne se mariait pas en période de carême. Et donc, on a dû reporter le mariage pour aller le faire à Jérusalem. Mais en fait, il y a eu une tempête sur la Méditerranée, tout le monde a été drossé sur Chypre, et le mariage s'est fait, mais vraiment, en catimini, comme ça, on a été chercher un archevêque, et puis on les a mariés, et Richard Cœur de Lion, le soir, est parti courir la potentaine.
Oui,
donc
parce
la
que,
pauvre...
parce qu'en plus, il y a des... Enfin, c'est des rumeurs qui n'en sont pas forcément, parce que beaucoup d'historiens sont assez d'accord là-dessus, pour dire qu'en fait, Richard Cœur de Lion était probablement homosexuel, ce qui, ce qui expliquerait... Bon, alors voilà, vous faites partie de ceux qui ne sont pas d'accord.
Oh, ben, il aimait la vie. Hein, il aimait les copains, faire la fête avec des copains. Bon,
de là à passer...
Où ça commence, où ça finit, on n'était pas derrière pour gérer tout ça. Mais en fait, c'était un homme qui aimait surtout faire la fête.
Ouais.
Hein, et éventuellement trouver des copines ou des copains, ça, je ne me mettrai pas ma main.
Peu importe. Hein, voilà. De la même façon qu'il n'a pas été longtemps avec Bérengère, il n'a pas été longtemps sur les terres anglaises. Hein.
Ben non, il a très peu participé à la vie anglaise, parce que d'abord, au retour de la croisade, cette fameuse troisième croisade, il s'est fait harponner par un concurrent soudoyé par le roi de France, et ils l'ont enfermé pendant presque 2 ans. Il a fallu que sa mère, Aliénor, récupère une rançon énorme, énorme, et l'emmène en Allemagne pour payer la rançon pour pouvoir libérer son gamin.
Hein ? Oui, il faut préciser que Aliénor d'Aquitaine, c'est sa maman.
Sa maman. Et donc, Richard est arrivé en Angleterre, non pas avec Bérengère, qu'on a complètement oublié, mais avec sa mère. Et il s'est fait ressacrer à Londres avec sa mère. Et non pas avec Bérengère, qui est toujours oubliée.
Elle n'a jamais mis les pieds en Grande-Bretagne.
Elle n'a jamais mis les pieds. Non, jamais. Bérengère. Non, jamais.
Ouais. Alors, donc, on a. Je résume. Hein. Bérengère, c'est l'épouse de Richard Cœur de Lion. Alors, donc, quand même, dans la Sarthe, on a de quoi être un peu fier. Ouais. Lui-même, il est fils du premier Plantagenet, le roi d'Angleterre Henri II, qui est né au Mans, qui a été baptisé à la cathédrale du Mans.
Voilà.
C'est quand même assez prestigieux pour nous. Une des filles d'Henri II, Jeanne. Oui. A été reine de Sicile.
Voilà.
Elle a eu un destin digne de celui de Bérengère, en fait, et elle est aussi oubliée que Bérengère.
Aussi oubliée, oui, elle a eu un destin tragique, parce qu'elle a épousé Guillaume II de Sicile, qui était un Hauteville, qui était parti de la Manche, hein, les rois de Sicile. Ils sont allés conquérir toute les Pouilles et la Sicile pour devenir roi, et donc un descendant, Guillaume II, s'est marié avec la fille d'un Plantagenet. Parce que c'était un problème d'alliance. On avait beaucoup d'enfants, 8 enfants, et on les mariait avec des princes, futurs rois ou princes consorts, pour
consolider
le royaume. Plantagenet était quelque chose de tentaculaire à l'époque.
Ah oui, c'était...
Voilà. Alors cette Jeanne, elle est donc mariée avec Guillaume II, et elle va vivre une dizaine d'années avec lui. Elle a 13 ans quand elle arrive en Sicile. Hein. Et Guillaume va mourir, sans lui laisser d'enfant. Pas d'enfant, on éjecte Jeanne
tout
de suite. Hein. Hop. Et elle se retrouve avec Richard Cœur de Lion et Bérengère qui sont partis, qui passent en Sicile pour aller faire la troisième croisade. Donc elle devient amie avec Bérengère et elle s'en va avec elle en Palestine. Au retour, elle revient en France et on va la marier avec le comte de Toulouse. Elle va être la cinquième femme du comte de Toulouse. Cinquième femme. Et elle va être malheureuse.
Ah.
Elle va être malheureuse au point qu'elle va se faire massacrer. Elle va arriver à se sauver et arriver à Fontevraud où elle va mourir de ses blessures. Mourir de ses blessures.
Tellement elle a, ouais. elle a souffert.
Ah oui.
Ouais. C'est terrible ça. Alors ah. oui, on en profite pour le dire que le gisant de Richard Cœur de Lion
est à Fontevraud.
Est à Fontevraud.
Aliénor aussi.
Aliénor est à côté de lui.
Oui. Henri II.
Henri II, son papa, à Richard Cœur de Lion.
Voilà.
Et sauf Bérangère qui, elle.
Bérangère est toute seule.
Et est restée, voilà. Encore une fois, isolée de
oui.
la famille.
Alors, moi, une fois
elle est restée chez nous.
Une fois à Fontevraud, je dis dis donc, vous en avez dans les caves. Hein. Vous avez Jeanne, qui, par exemple, qui est dans les caves.
Hein. Elle est là.
Je dis pourquoi vous la sortez pas, puis ne la donnez au Mans, ça lui ferait une compagnie quand même.
Voilà, c'est hein ça. Bérangère se sentira moins seule.
Alors j'ai mon dernier roman qui va paraître là pour Noël, c'est Le mariage du siècle.
Ah bah on en profite oui, pour alors, en parler, voilà. Allons-y.
Alors Le mariage du siècle, c'est un mariage qui a été projeté par Richard Cœur de Lion.
Mais ça part d'une histoire vraie.
Ah oui, oui, c'est vrai.
C'est, avec, une histoire, avec, c'est un roman.
Avec
mais...
le frère de Saladin, qui était donc le monarque arabe, du côté arabe. Donc et puis Richard Cœur de Lion qui était le vainqueur, enfin le représentant de la coalition entre la France et l'Angleterre. Donc il y a un projet de mariage qui semble satisfaire tout le monde, sauf une chose, c'est qu'on a oublié d'en parler à Jeanne. Et quand on lui en parle, elle dit non, non, il n'est pas question que je me donne mon ventre à un musulman. Alors sinon, on aurait fait un royaume bi-religieux, catho et musulmans, qui auraient peut-être fait que ce coin-là serait devenu beaucoup plus calme et beaucoup plus prospère qu'il n'a été.
Est-ce que, et en fait, c'est cet aspect oublié que vous avez voulu faire ressortir en fait, dans
voilà,
ce livre.
C'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est l'histoire de toute cette croisade. C'est quelqu'un qui rentre...
Qui aurait pu avoir des conséquences.
Voilà, qui rentre des croisades et qui raconte ça. Et qui dit, bah, c'est dommage parce que finalement, si on avait été un peu plus diplomate avec Jeanne, elle, peut-être qu'elle l'aurait accepté parce que le marié était un bel homme et a eu une vie très agréable. Très agréable. Et donc, elle aurait été surtout moins malheureuse qu'avec le comte de Toulouse.
Ça aurait changé beaucoup de choses sur
la face du monde.
Politique et
ah oui.
économique. Même.
Ah oui, oui. Ouais. Changer la face du monde.
Probablement.
Ah oui.
Son prix ne dira sa raison à douettement ce dolent de mon nom. Mais par confort peut-il faire chanson moutée à mi mes pauvres solidons. Oh, tonaro, c'est pour ma dehonson, suis ces deux hivers pris.
À l'écoute des mots, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
On passe ensuite au... Alors là, on est passé à la fin, enfin, là, le futur livre, mais je continue quand même un peu le parcours,
oui,
comme
oui.
c'est la première fois qu'on fait une émission ensemble. On passe ensuite au roman, parce que oui. les romans, voilà, là, oui, vous venez d'en citer un qui va sortir, mais vous en avez fait d'autres. Alors, il y en a un qui s'appelle La Dame du Mans.
Oui.
L'intrigue se déroule au XIIIe siècle, et l'histoire est évidemment au centre du roman. Comme d'habitude avec vous. Mais justement, quelles sont les parts de réel et de fiction quand vous écrivez ainsi, de cette façon-là, un roman à caractère historique ? Là, vous venez de me dire, le dernier, c'est une histoire vraie, oui. mais, si j'ai bien compris, vous faites des liens, c'est les liens qui font le roman ?
On dirait que tous les faits qui sont invoqués dans ce livre, Le mariage du siècle, c'est des faits réels. Il n'y a rien inventé. Hein. Bien sûr, on fait parler des personnages, c'est pas ça qu'ils ont dit. On fait des situations, mais tous les faits sont historiques et avérés. C'est une question de recherche qui me demande 2 ans ou 3 ans de recherche à chaque fois. Hein. Des tonnes de documents. Hein. Alors, revenons à donc, La Dame du Mans. La Dame du Mans, c'est Bérengère. C'est toujours la même. Hein.
C'est toujours elle.
Voilà. Mais dans sa prestation au Mans, elle arrive en 1204 et elle meurt en 1230. Donc elle va rester 26 ans au Mans.
C'est pas mal.
C'est cette période mancelle que j'étudie. Hein, principalement à travers quelqu'un qui est fictif, bien sûr, mais qui va raconter ce qu'il a vu et tous voilà, les faits sont avérés quand même.
Voilà pourquoi on l'appelle roman. C'est qu'il y a un personnage fictif pour parler raconte. De quelque chose de vrai.
Voilà.
Voilà, c'est ça l'explication. Vous continuez aussi avec le chancelier de la reine,
hein,
on n'en sort pas. Hein. En 2018, cette fois, on revient à la biographie, cette fois, consacrée à Gervais le Barbier, dit Francourt.
Ouais.
Il est né de père inconnu, il est très intelligent, ce qui lui permet de devenir avocat, jusqu'au moment où on le retrouve auprès de Catherine de Médicis. Il devient si important que la reine de Navarre, Jeanne d'Albret, l'élève à la comment on appelle
chancelier.
À la dignité, de chancelier du royaume.
Voilà.
Et voilà l'exemple d'un personnage encore une fois parfaitement inconnu dans la Sarthe, qui a pourtant une vie brillante. Mais comment se fait-il qu'on oublie des gens comme ça ?
D'abord, il faut dire que je suis né à 500 mètres. D'où habitait le chancelier de la reine, Gervais le Barbier.
Ça peut influencer un peu.
Voilà, donc j'ai pioché pour savoir qui était ce personnage-là. Et donc, effectivement, il est devenu le premier ministre de Jeanne d'Albret. Jeanne d'Albret, c'est la reine de Navarre, mais surtout la grande directrice des protestants, des rebelles protestants contre les catholiques de Catherine de Médicis. Mmh. Donc, il va devenir l'ennemi du pouvoir. Hein. Et donc ça se passe effectivement pendant la fameuse guerre entre les protestants, et ça se termine bien sûr à la Saint-Barthélemy, puisque malheureusement tous les protestants sont exterminés, dont Gervais le Barbier de Francourt.
C'est ça, voilà, encore un détail qui va intéresser les auditeurs, et parce que c'est vraiment intéressant aussi de faire remonter à la surface comme ça des personnages qui sont occultés par l'histoire.
Ouais.
Et alors... il y a encore un autre bouquin qui est sympa, c'est Les Belles de Marie d'Or.
Ah.
Là, on aborde un élément peu connu et pourtant à la fois connu.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire que tout le monde se souvient de la Dame de Montsoreau d'Alexandre Dumas.
Oui.
Et ben, le roman d'Alexandre Dumas, c'est c'est Marie d'Or, née à Souligné-sous-Ballon. Ainsi que ses deux sœurs. Et donc vous avez fait un bouquin sur les trois frangines.
Les trois frangines, oui, qui sont nées donc à la Frélonnière, au château de la Frélonnière à Souligné-sous-Ballon.
Un joli château d'ailleurs, allé le voir,
très joli. Bon, il n'est pas tout à fait d'époque, mais il a été remanié. On a créé une douve devant qui n'existait pas à l'époque. Mais en fait, ce sont trois sœurs, trois jolies femmes, qui ont eu trois destins tout à fait différents. Effectivement, l'aînée, elle s'est mariée avec le marquis de Bonnétable, qui est mort très peu de temps après. Donc elle s'est remariée avec le comte de Montsoreau, dont on connaît l'histoire avec cet assassinat.
Voilà. Et là aussi, on a un château
au bord de la Loire.
Au bord de la Loire, qui est très sympathique aussi. Et je suis allé voir aussi. Parce que moi, je me suis pas seulement intéressé à ce que vous avez écrit, je suis allé voir.
Voir sur place.
C'est bien, c'est sympa aussi de s'imprégner, quand c'est pas loin de chez nous, de lieux comme ça, Montsoreau, en une journée, on se fait ça, un petit resto le midi, puis c'est sympa.
Voilà.
Et donc, ça, c'était un truc aussi. Peu de gens savent que Madame de Montsoreau, en fait, était sartoise.
Était sartoise, originaire de Souligné-sous-Ballon. Voilà. Comme ses deux sœurs, il y en a une qui a eu... La deuxième, elle s'est mariée avec quelqu'un qui est apparenté avec Madame d'Estrées, donc la favorite du roi. Et la troisième, elle s'est plutôt accoquinée avec un bandit, le bandit Manchot, qui a eu le bras coupé dans...
Ah oui, alors lui, c'est un sacré personnage.
Ah oui.
C'est vraiment...
Alors lui, c'est le voyou.
Puis alors, c'est Magouille et compagnie sans arrêt. Ça m'a beaucoup plu, ça aussi. C'est un sacré type, hein. Sans scrupules, comme on dit.
Oui.
Il ne savait pas trop ce que c'était, les scrupules.
Non.
Nous avons centré notre émission sur les personnages liés à la Sarthe. Évidemment, c'est toujours ce qui intéresse quand même dans une radio comme la nôtre. Et nous n'avons pas eu le temps, évidemment, de parler de tous vos livres, parce que je l'ai dit tout à l'heure,
il y en a
22 maintenant. Mmh. Mais tout de même, dans vos dernières parutions, qu'est-ce que vous avez envie de signaler aux auditeurs? C'est le moment pour faire de la pub pour vos livres.
Oui, ben, mon dernier, c'est Le disparu de l'orme. C'est un gamin qui a 7 ans, à peine.
Je vais dire, résumez-nous un peu.
Et qui va partir de chez lui. Sa mère est alcoolique. Il n'y a pas de mari, apparemment. Sa mère est alcoolique, et donc il s'en va, le gamin. Et il s'en va dans les bois. Il est recueilli par un chien. Il s'enfuit. Et il va disparaître. On ne va plus en entendre parler pendant...
Des années.
Des années. Et on va le retrouver. Mais là, c'est pareil. C'est un travail de recherche énorme. Hein, parce qu'il faut tout vérifier. Et il va finir sa vie quand même à Savigny-l'Évêque. Donc, c'est pas loin. C'est à côté. Mais il a une vie extraordinaire. Parce que, bien sûr, sa jeunesse est difficile parce qu'il va errer dans les bois, il va vivre de chasse et de pêche, mais comme un gamin déluré qu'il était. Il va survivre, et puis plus tard, il va s'engager dans l'armée, et il va partir comme ça au Québec. On le retrouve au Québec, ensuite il va être à Haïti. Alors là, c'est pareil, j'ai retrouvé une note de location d'un cheval, et c'était marqué le Cap. Alors je dis, c'est pas possible, il n'est quand même pas allé en Afrique du Sud. Il y a un petit pays à Haïti qui s'appelle le Cap.
Ah, le piège.
Donc, il faut tout vérifier.
Ah oui, là, c'est voilà. C'est là, voilà un exemple où quand on fait des recherches, notamment en généalogie, par exemple, on a ce cas-là, où on peut partir sur une mauvaise piste parce qu'on voit un nom et puis c'est pas le nôtre. C'est pas celui qu'on pensait.
Alors, il va revenir en France, il va se marier avec la fille du notaire de Torcey, et puis, il va lui faire 2 enfants. Et puis après, sa femme va mourir, va se remarier avec une autre, et puis c'est plus fort que lui, il va repartir sur le trimard, il va repartir parce que, il s'ennuie.
Ça le démange.
Voilà.
Ah ouais. Et donc là, on voit bien, toujours, même quand vous faites des romans, il y a toujours la part historique réelle.
Ah oui,
ça part toujours du réel.
Oui. J'ai du mal à inventer
une histoire comme ça.
Non, je préfère même. J'ai écrit La fille du Harki, par exemple, c'est sur la guerre d'Algérie, malheureusement, auquel j'ai participé. Mais il y a une histoire d'amour, mais qui n'a peut-être pas existé. Mais tous les faits sont avérés, quoi. C'est toujours. Je rattache ça toujours à quelque chose de fixe. Je ne suis pas quelqu'un qui va imaginer...
Un polar, par exemple, avec une intrigue... Non, c'est pas votre truc.
Non, c'est pas mon truc.
Bon. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de nous raconter tout ça.
Merci de m'avoir
invité. Et puis, à vous, les auditeurs, je vous dis simplement une petite chose. Si vous souhaitez en savoir plus sur les œuvres de Gérard Levaché, vous allez tout simplement sur le site auteurdumaine.net. Tout en un seul mot, auteurdumaine.net. Tout en un seul mot et un S à hauteur. Hein, je le dis parce que sinon vous allez chercher et pas trouver. Et là, vous trouverez une fiche complète sur Gérard Levaché et sur tous ses livres avec un résumé pour chaque livre. Donc vous voyez, vous avez, si l'émission était incomplète, vous pouvez au moins compléter comme ça. Et puis après, vous verrez les prix, etc. Et puis après, il suffit de les acheter. Voilà. Une dernière précision. La deuxième chanson que vous avez entendue est une complainte qui a été composée en langue provençale, et bien figurez-vous, par Richard Cœur de Lion lui-même, pendant qu'il était en captivité en Autriche dans les années entre 1193 et 1194. C'est quand même très original et tout à fait dans le ton de notre émission. Donc, je vous remercie. Là, c'est la dernière émission pour cet été, parce qu'on prend tous des vacances. Donc, on se retrouvera à la rentrée pour une nouvelle émission. Gérard Levaché clôt la saison, si j'ose dire.